Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.
L'intelligence artificielle est partout autour de nous. Et dans votre entreprise ? C'est le moment de vous lancer. Exploitez le potentiel de l'IA et boostez votre entreprise. Avec Digital Wallonia, bénéficiez d'un soutien financier et d'une équipe d'experts à vos côtés. Inscrivez-vous dès maintenant sur digitalwallonia.be/IA.
Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Dernier volet de notre série sur l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Ce matin, on verra ce que l'IA va changer pour la culture. Mais d'abord, on vous emmène avec nous à la rencontre d'un futur athlète olympique, le hockeyeur Nelson Onana, qui va découvrir ses premiers Jeux. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Avec la série Rêve Olympique, on vous propose de découvrir plusieurs facettes du quotidien d'athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris. On a suivi une séance de sport avec Oisin Derieux, on a discuté philosophie avec Julien Watrin. Ce matin, on part à la rencontre de Nelson Onana, membre des Red Lions. Le hockeyeur est aussi étudiant en médecine. Il nous a rendu visite accompagné de son père. Avec eux, on a parlé de leurs racines camerounaises, on a parlé diversité dans le hockey et ce que ça fait de vivre avec l'étiquette de seul métis du hockey belge. Dans cet épisode, vous entendrez Nelson, son père, Thierry Wilmot du Pôle Sport et moi-même.
Et moi, je suis Luc Onana Alima, le papa de Nelson Onana, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis docteur en sciences appliquées de l'Université catholique de Louvain.
Et donc moi, je suis le fils de Luc Onana Alima et je suis donc Nelson Onana Alima. Et je suis joueur de hockey pour l'équipe nationale belge, donc des Red Lions. Et je suis aussi étudiant en médecine ici à l'UC Louvain, qui est situé à Alma, donc à Woluwe-Saint-Lambert. Et donc voilà, je suis en master 1 de médecine, tout en ici combinant une année olympique à venir.
Et puis si je peux me permettre, moi je peux encore compléter la famille Onana, comme ça on la connaît un peu plus. Et vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois qu'il y a Pascal, la maman.
Oui.
Il y a Justine, la grande sœur, qui a 25 ans. Il y a donc Nelson qui est né le 1er mars 2000. Il y a Guillaume, 20 ans, et il y a Lionel, 18 ans.
Tout à fait.
Ça fait du monde, ça fait de l'occupation, ça, 4 enfants comme ça.
Oui, ça fait une belle famille, très dynamique, très vivante. On est souvent ensemble à la maison et donc ça fait de la vie.
Cela dit, s'occuper d'un sportif de haut niveau, accompagner un sportif de haut niveau, qui n'est pas de haut niveau quand c'est dans ses jeunes années bien sûr, mais ça demande une attention particulière, différente que celle qu'on porte à ses autres enfants. Ça prend du temps, ça prend du temps sur les autres. Comment on gère ça en tant que papa et de maman?
On est un peu contraint de suivre, parce que notre objectif ou notre mission en tant que parent, c'est d'accompagner un enfant qui se distingue d'une manière ou d'une autre. Il a son accompagnement spécifique sans pour autant oublier les autres, parce que nous avons toujours été et nous sommes toujours présents aux côtés de tous nos enfants. Sauf que la demande suscitée par ou générée par la compétence de Nelson fait que nous sommes un peu dans l'obligation de l'accompagner un peu plus que les autres, mais on n'oublie pas les autres.
Toi aussi, Nelson, c'est quelque chose à laquelle tu portes une certaine attention, de te dire, tiens, je ne dois pas non plus prendre trop la lumière, je vais dire, par rapport à mes frères et sœurs. C'est quelque chose de difficile, parce qu'il y a quand même une attention médiatique qui s'est portée sur toi. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer avec ses frères et sœurs, ou c'est quelque chose qui passe normalement?
Mais je pense, dans notre famille, ça se passe assez normalement, mais surtout parce que je pense qu'on a chacun beaucoup de respect pour ce que chacun entreprend, par exemple, ma sœur, beaucoup de respect pour ma sœur, pour mes frères aussi. Et donc, je pense que ce qu'ils entreprennent, au final, si moi j'avais dû faire ça dans ma vie, eh ben, j'aurais aussi été très heureux. Et c'est pour ça qu'il y a le respect mutuel par rapport à ça. Et que je pense qu'eux sont très contents de voir que je peux performer à un haut niveau de hockey. Et je pense qu'il n'y a jamais eu réellement de jalousie. Et d'ailleurs, les premiers supporters, d'ailleurs, c'est souvent eux. Et puis, les premiers supporters de ma sœur, quand elle a un match, comme mon papa dit, pour la forme, c'est aussi nous, les frères, du coup. Donc voilà, je pense que dans ce contexte-là, ça s'est toujours très bien passé. Et je pense que c'est une chance, parce que je pense que toutes les familles, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Et chez nous, ça, ça se passe à merveille.
Vous avez vite compris que vous, le hockey, ça allait être pour un peu plus que la forme et qu'il y avait une possibilité d'aller jouer au haut niveau et de devenir effectivement sportif professionnel.
Mais je pense que je ne l'ai pas vite compris parce que j'ai toujours été assez réaliste par rapport au hockey. Donc si on demande un peu aux gens, beaucoup de gens ne sont même pas au courant qu'on peut être un hockeyeur professionnel en Belgique. Et moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la prétention de pouvoir faire partie de ces rares personnes qui sont hockeyeurs professionnels en Belgique. Je pense d'ailleurs qu'à part les Red Lions, il n'y a pas de hockeyeurs professionnels en Belgique. C'est souvent les semi-professionnels qui ont un travail sur le côté. Et donc, ça a été très tard, je dirais, que j'ai pu penser à devenir professionnel. Et d'ailleurs, ça s'est passé au moment où j'ai reçu mon premier contrat avec les Red Lions et que j'étais officiellement sur le terrain avec les Red Lions. Avant ça, je me voyais juste comme un jeune qui jouait bien au hockey. Mais tant que t'es pas reconnu par l'équipe et que t'es pas intégré dans l'équipe, en fait, tu vois le hockey comme du pur plaisir. Et ça, je pense, ça fait aussi la force des Red Lions. C'est grâce à ça, en fait, lorsque t'arrives en Red Lions, t'as vraiment les pieds sur terre par rapport à la vie de tous les jours et t'es très humble par rapport à ce que tu réalises.
Alors dans tout ça, il y a des études de médecine aussi. Bon, déjà, tu n'es pas le premier puisque Justine était passée par là avant. C'est venu naturellement. C'est quoi en fait l'attrait pour ces études-là? Pourquoi la médecine?
Je pense d'abord il y a un côté un peu inconscient qui est parfois un peu vu négativement. C'est voilà, étant donné que j'ai fait les études secondaires dans des écoles un peu élitistes où tout le monde n'a pas la chance des fois d'aller dans ce genre d'école, où on va pas toujours aider ceux qui ont du mal d'un point de vue scolaire. Et il faut vraiment avoir des facilités dès le début. Et en ayant dans ces écoles-là, souvent, on va souvent dire il faut faire ingénieur civil, il faut faire médecine, il faut faire avocat, donc il faut faire du droit, pardon. Et donc, je pense déjà inconsciemment, parce que j'étais un peu tiré là-dedans, mais au final, le choix de la médecine, ça a été réellement parce que j'ai, je pense, une capacité et un plaisir réel à pouvoir aider les gens et à parler avec les gens, échanger. Et dans la médecine, ce que j'aime bien actuellement, c'est pas le côté physiologique des pathologies, c'est vraiment le côté de l'accompagnement des malades, l'accompagnement des gens, mais que ça va même pas dans la maladie, mais dans les suivis aussi. Et donc je pense que c'est surtout ça que j'apprécie énormément en médecine. Et au final, c'est marrant, mais ce que j'apprécie en médecine, c'est aussi ce qui revient dans le sport, c'est-à-dire l'esprit d'équipe.
L'échange
qu'on a avec les gens. Et donc voilà, je pense souvent je suis un peu un caméléon des fois dans l'environnement où je suis, donc je m'adapte assez bien. Et je pense qu'en médecine, c'est ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir s'adapter aux patients auxquels on fait face. Et donc voilà, je pense aujourd'hui je suis hyper content et j'arrive pas à lâcher ces études. J'ai toujours une main lave l'autre maintenant, c'est de dire que la médecine fait que je peux vraiment performer au hockey, et le hockey fait que je peux performer aussi en médecine.
Et c'est jouable. On a fait dans le cadre de ces podcasts Rêve Olympique une rencontre avec un athlète, Julien Watrin, qui vient de recommencer des études de philosophie et à qui on avait posé la question de, on dit toujours qu'en Belgique c'est absolument incapable de mener de front une carrière de sportif professionnel et de faire des hautes études. Bah là on a l'exemple que c'est possible. Ça demande une gymnastique de tous les jours ou c'est juste un petit peu d'adaptation?
Non, c'est beaucoup d'adaptation, parce qu'en fait il faut être soutenu par les gens qui sont autour de toi. Donc quand je dis soutenu, c'est par exemple l'université doit vraiment nous soutenir, et elle le fait actuellement. Donc il y a des programmes adaptés, on peut déplacer un peu nos examens. Mais donc une fois que cette charge, on va dire administrative et organisationnelle, on est répartie vers d'autres personnes et qu'on peut un peu déléguer cette surcharge, et ben je pense que la partie études et la partie apprentissage, ça il faut juste aimer le faire et il faut apprécier. Et à partir du moment où t'aimes ce que tu fais, c'est un peu d'une phrase bateau, mais si t'aimes vraiment tes études, alors ça devient pas une charge. Et la charge, elle est plutôt de se dire, zut, j'ai examen dans 3 semaines, j'ai examen dans 4 semaines, je suis pas prêt. Et ben nous, on a la chance qu'on dit à l'université, écoutez, j'ai trop d'entraînement, c'est possible de mettre l'examen en question peut-être 2 semaines plus tard, puis on s'arrange un peu avec le professeur, est-ce que ça vous va, est-ce que vous serez disponible à tel moment. Et voilà, et on passe l'examen comme tout le monde, donc il faut étudier. Mais par contre, on peut, c'est vrai, adapter et prendre plus de plaisir à étudier parce qu'on n'a pas le facteur stress qui s'impose à nous, quoi.
Au travers de tout cela, ben, y a évidemment, on en a parlé aussi, y a ces racines camerounaises que tu as eu l'occasion, ben, fatalement que tu as bien sûr, et que tu as eu l'occasion de revoir, de ressentir, je pense, de près. Y a une année environ, tu es parti là-bas, tu y avais déjà été avant, je crois, mais en étant beaucoup plus jeune. Et c'était une première visite en tant qu'adulte, cette fois au Cameroun. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'elle a été cette rencontre et cette découverte ou cette nouvelle expérience au Cameroun?
Non, ouais, moi j'ai totalement redécouvert le Cameroun il y a un an, donc en janvier 2023. Et avant cela, en fait, donc j'ai été, quand j'étais jeune, comme Thierry le disait, mais surtout, le Cameroun, c'était aussi l'endroit où papa travaillait pendant quelques années. Et quand ton papa n'est pas disponible et qu'il est au travail à l'étranger, en fait, tu vois plutôt le Cameroun comme l'endroit où papa va et l'endroit où papa n'est pas disponible. Alors que ce n'est pas vrai, parce qu'une fois que j'ai pu aller avec papa sur place, et ben là, je me suis vraiment rendu compte de choses extraordinaires. En fait, il y a encore toute ma famille qui est là-bas. Évidemment, j'étais au courant de ça, mais je ne les voyais plus. Et donc, j'ai re-rencontré ma famille, ma grand-maman, donc la maman de mon papa. Et... faut savoir que je trouve ce qui est assez extraordinaire, c'est que le village et que dans lequel ma famille habite, c'est un village, on va dire, encore très traditionnel. Donc on n'est pas du tout dans des grandes villes. Et malgré que mon papa soit en Europe ici, en Belgique, et ben là-bas au Cameroun, ma famille reste dans un contexte très traditionnel. Et donc moi, quand j'y suis retourné, ben j'ai pu vraiment rencontrer un décalage total par rapport à ma vie actuelle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et au-delà du bien que ça m'a fait, ça m'a donné envie aussi de pouvoir participer à ce quotidien qui est tellement différent. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand je suis parti, j'étais seulement une quinzaine de jours, et quand je suis parti, ben, j'avais vraiment le sentiment de dire, oh là, ben, en fait, à très vite, parce que je vais revenir, quoi. Alors que ça faisait 10 ans que j'avais pas été, donc j'étais quand j'avais 23 ans, et la dernière fois que j'avais été, j'avais 12-13 ans, donc ça fait 10 ans que j'avais pas été, et là, tu te dis, ben, en fait, on se voit le plus vite possible, parce que vraiment, tu sens qu'il y a cette connexion qui est revenue directement.
Ça a été un choc, ça a été justement plutôt des connexions qui se sont encore consolidées, des nouvelles découvertes et qui ont renforcé encore ce lien d'appartenance.
Ouais, je pense. Ça a été aussi un renforcement du lien avec papa aussi, je pense, qui a été pas mal là-bas pendant plusieurs années aussi. Enfin, tu confirmeras, mais c'est une grande partie de ta vie aussi, le Cameroun. Donc, voir que la famille... est compatible aussi, la famille occidentale européenne ici est compatible avec la famille au Cameroun, je pense, enfin, ça fait du bien, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas pour nous, les enfants, ça fait aussi du bien. Et là, il y a 10 jours, ma soeur, elle est revenue d'un stage de 1 mois à l'hôpital du village, justement, d'Okola, qui est à la ville dont papa vient, on va dire. Ouais. Enfin, il vient du village de Bichinda, qui est à côté d'Okola, qui est la plus grande ville. Et donc ma sœur a été faire un stage là-bas, maman a été aussi avec papa, et donc on se rend compte que tout d'un coup, il y a ce mouvement qui se met en place où petit à petit, on retourne tous, et ça nous fait beaucoup de bien.
Pour vous, ça doit être aussi une fierté, enfin ça doit être assez agréable de voir vos enfants se réapproprier votre histoire aussi et vos racines à vous.
Oui, c'est très agréable, parce que généralement, lorsque nous, Africains, d'origine on va dire comme ça, partons pour l'Occident, très souvent... On s'installe en Occident, on ne pense pas beaucoup à repartir. Mais moi, ça a été toujours une démarche très, j'ai envie de dire, métisse. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé en Europe, je m'étais fixé pour objectif de parfaire mes connaissances et de mettre ces connaissances au service de toutes les nations qui en ont besoin. Et en général en Afrique, particulièrement pour le Cameroun. Ça fait que lorsque j'ai faisais mes recherches doctorales, beaucoup de choses que j'ai inventées, je les gardais, sachant que je vais les valoriser plus tard pour ces pays-là. Et donc, voir que mes enfants, ma famille d'une manière générale, repart là-bas, c'est une fierté, c'est une très grande fierté. Pour eux, c'est une bénédiction aussi. Parce que moi, je vis avec l'idée que les ancêtres sont toujours là et que mes grands-parents nous ont bénis, ils m'ont permis d'être ce que je suis. Et chez nous, on dit, on transmet. Oui. Ça se passe de parent à fils. Oui. Et j'estime que mes enfants, par ce cheminement qui est en train de se mettre en place, il y a une transmission qui se fait naturellement. Parce que quand Nelson a été avec moi au Cameroun l'année passée, ce qu'il a vécu était juste extraordinaire parce qu'il a participé à une séance de bénédiction traditionnelle. C'est des choses très, très rares chez nous et qui ont une portée, au-delà de la portée scientifique, on ne peut pas vérifier, mais une portée, j'ai envie de dire, spirituelle, mystique, que seuls nos ancêtres maîtrisent.
Par rapport à cette approche métissée et à cet apport de culture qui vient de Belgique au travers de ta maman, du Cameroun au travers de ton papa, il n'y a jamais eu de questionnement sur l'appartenance au drapeau. Toi, cette appartenance ne te pose pas de questions, ne fait pas doute?
Non, mais hier, je portais d'ailleurs le maillot du Cameroun sur moi, c'est vrai. Mais par contre, la réalité des choses, c'est que je pense l'appartenance à une frontière. Moi, j'y crois pas tellement, en fait, dans mes convictions. Okay. Et quand je représente les Red Lions, je représente les gens qui soutiennent les Red Lions, je représente les gens qui s'y retrouvent dans les Red Lions et qui s'y retrouvent dans la Belgique. Et au final, c'est pareil avec le Cameroun. Si maintenant, quand je joue avec les Red Lions, je suis certain que s'il y avait les matchs Red Lions diffusés au Cameroun, il y aurait des Camerounais qui se lèveraient devant la télé. Donc c'est un peu ça. Et en Suède, pareil. Donc au final, la frontière n'est pas importante, mais c'est vraiment les origines qu'on représente. Et puis même, c'est pas que des Camerounais, ça peut être l'Afrique, ça peut être même des Européens, peu importe. Et je pense que c'est ça qui est le plus important.
On vient d'exprimer toute la richesse que peut avoir ce type de situation, de pouvoir mixer les deux cultures et tout ça, mais finalement, ces racines camerounaises, comment elles sont-elles vécues ici en Belgique par rapport à ton entourage, Nelson, dans le milieu du hockey? Comment est-ce vécu? Comment est-ce vu? Est-ce que tu es bien accepté? Je pense bien, mais exagérément, ou enfin, tu sens une différence parce que tu as cette richesse là
Je pense que c'est une chance. C'est un peu dans mon groupe d'amis, c'est un peu un rayon de soleil parfois qui arrive. Donc c'est un exemple tout bête. C'est on fait une soirée, tu mets une musique africaine. Tout le monde se lève, tout le monde danse. Donc c'est l'exemple facile, mais c'est malheureusement on n'a pas toujours la chance. Les gens n'ont pas toujours la chance de pouvoir mixer les cultures comme ça, mixer les origines. Mais quand ça se passe, tout le monde va te dire que c'est juste magnifique. Mm-hmm. Et je pense que ici, dans le monde du sport, par exemple dans le hockey, il y a très très peu d'Africains, ouais. Par exemple. C'est pas encore très multiculturel, pas très diversifié. Et je pense que les gens au final, de par ma personne actuellement, il voit quand même que c'est magnifique, quoi. Genre, il disait, qui me disait ça à un moment, il disait, mais heureusement qu'il n'y a pas 15 Camerounais dans le championnat, parce qu'alors il y en aurait 10 en équipe nationale, quoi. Donc, ça
serait... Pour le moment, il n'y en a qu'un, justement. Est-ce que tu n'as pas parfois la sensation aussi d'être peut-être, j'utilise un terme un peu fort, mais un peu instrumentalisé aussi, en disant, les Red Lions ont leurs joueurs africains et tout ça aussi.
Qu'on le sort tout le temps en étant devenu l'étiquette du c'est le métis du hockey belge.
Voilà. On en a un, quoi, tu vois.
Mais c'est un fait, je pense. Mm-hmm. Donc, je remarque quand même qu'il y a quand même pas mal de demandes, que ce soit pour un podcast. Non, oui. Il y a pas mal de demandes au niveau médiatique par rapport à ça, et que voilà, les gens me remarquent sur le terrain. Et peut-être, effectivement, que c'est aussi dû par ma couleur de peau, par mes origines différentes. Mais je pense qu'il n'y a aucune volonté de nuire de par que ce soit les autres joueurs, ouais, ou le public qui regarde. Et c'est pour ça que tout se passe bien. Et quand je regarde au niveau du staff, par exemple, de l'équipe nationale, ou du staff en club, ou des joueurs, on est vraiment là pour de la performance, ouais, et de la confiance en l'individu. Et je pense au niveau de la performance, je suis jugé de manière tout à fait intègre, comme tout le monde. Mmh. Et au niveau de la confiance, c'est pas la couleur de peau, les origines qui décident si on fait confiance à quelqu'un ou pas. Et je pense que les joueurs m'accordent toute leur confiance actuellement, et moi j'accorde toute ma confiance aux joueurs, et ça se passe très bien. Et aussi, par contre, en fait, c'est ça aussi parfois le débat, c'est que j'ai pas envie d'avoir une médaille pour être, parce que je suis le seul métis, le seul noir de l'équipe nationale, en fait. Et donc c'est un peu ça le débat, c'est que d'un côté, c'est ce qui fait un peu ma marque de fabrique, ouais, mon côté marque, si je peux parler de marketing, c'est un peu ça qui fait aussi mon marketing, c'est de dire voilà, j'ai une différence qui se marque, qui est visuelle, ouais, qui se vend bien. Et d'un autre côté, je dis ah, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir une médaille pour ça. Donc c'est évidemment, il y a un peu un conflit qui se crée là, mais je pense que c'est juste, il faut savoir juste vivre tranquillement. Je me pose pas plus, en fait, je me pose pas tellement de questions.
En même temps, tu as vécu déjà ce que plein de jeunes footballeurs peut-être ont vécu, en disant, tu as déjà entendu des coachs de l'équipe adverse disant tu tiens le noir et tout ça. Tu as déjà vécu, tu as déjà entendu ça sur un terrain.
Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'est souvent, enfin, je pense que ça m'est arrivé 2-3 fois. Et c'est assez marrant. Mais souvent, le coach qui est là derrière, il le remarque parfois même avant moi, et il fait une réflexion. Ouais. Et je pense que le progrès concernant ce qui est le racisme, oui, il y a vraiment un progrès qui se fait, une évolution, je pense, et je sens que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça.
Alors j'allais y venir, parce que fatalement, bon, le hockey est déjà vu comme un sport évidemment réservé quand même à une certaine élite, hein. On est d'accord, je viens d'évoquer le football, on n'est pas dans les mêmes... Est-ce que tu ne crains pas qu'on puisse arriver un jour, malgré tout, à ce qu'il y ait... Alors tu vas dire, on doit peut-être souhaiter ne pas avoir 10 Camerounais dans l'équipe, dans le championnat de Belgique, mais pourquoi pas, finalement, et ça va peut-être arriver.
Ouais, je le souhaite, je le souhaite. une blague évidemment, je le souhaite. Non.
Mais fatalement, ça pourrait créer des dynamiques qui existent dans d'autres sports et que l'on connaît et que l'on regrette et que l'on déplore. Est-ce que tu ne crains pas ça? Est-ce que tu ne vois pas cela arriver?
Je le crains pas, non, parce que je pense à le sport en soi. Prône des valeurs qui sont des valeurs de respect, qui sont des valeurs de confiance en ses coéquipiers, justement d'intégration. Et je pense que le travail qui est réalisé actuellement pour que le sport mette en avant, comme je disais, l'intégration de tout le monde et que les valeurs mises en avant par le sport sont des bonnes valeurs, je pense que dans ces cas-là, on ne fera pas de pas en arrière au niveau de la discrimination, même si il y a de plus en plus de cultures différentes qui commencent à jouer au hockey. Et en fait, j'espère d'ailleurs que ça va aller dans ce sens-là. J'espère que le hockey va se diversifier. Ouais. Parce que des fois, c'est même embêtant d'être le seul métis. Voilà, en fait, ça m'embête parfois de recevoir une médaille, comme je disais, ouais. Parce que je suis le plus grand, parce que je suis le seul métis. Ouais. Et en fait, ce qui m'embête, c'est vraiment, en fait, limite, d'être le seul.
Comme dit Nelson, les valeurs sportives, les valeurs du sport, c'est le respect. Et je crois que si l'on se focalise, on se concentre uniquement sur ces valeurs-là, les problèmes accessoires relatifs à l'identité, entre guillemets, n'existent plus. Mmh. Et autre chose, c'est que lorsqu'il y a performance, en général, la performance crée une abstraction où on ne voit plus la couleur.
Voilà.
On ne voit que la performance. Et ça, c'est très important parce que c'est que Vin Nelson, je ne vais pas parler à sa place, je pense qu'il y a un peu de ça. Dès le bas âge, au Pingouin, au club de hockey à Nivelles, quand Nelson joue, ou quand il jouait, et même maintenant quand il joue, on ne voit pas le noir qui joue. On voit le garçon qui court le plus vite possible sur le terrain et qui fait des choses extraordinaires. Au Pingouin, c'était comme ça. Et ça fait que moi, j'ai peut-être une seule fois entendu un jour « Tiens le noir, tiens le noir mmh. ». Un match contre, je crois, c'était la... Je ne vais pas citer l'équipe, mais c'est l'une des rares fois.
C'est ça. Mmh.
Et ça, c'est parce que tout le monde voit la performance qui nous éblouit et qui fait que ça efface la malveillance éventuelle. Donc, je pense que travailler dans cette dynamique-là aiderait énormément. Où on met plus en avant la performance et la confiance en l'homme. Mmh. C'est ça qui compte, en fait.
Cette semaine, le podcast du soir s'intéresse à l'intelligence artificielle. Omniprésente dans les médias depuis fin 2022 et le lancement de ChatGPT, l'IA fascine autant qu'elle effraie. Mais concrètement, quel est son impact sur nos vies, travail, santé ou encore enseignement? On verra comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans ces domaines aujourd'hui, mais surtout demain. Comment contrôler ses usages et donc ses possibles dérives? Chaque jour, avec un journaliste de la rédaction, on va décrypter l'influence de l'intelligence artificielle sur un aspect concret de votre quotidien. Aujourd'hui, on se demande si l'IA va tout bouleverser niveau production culturelle. Les scénarios, les chansons, les livres de demain seront-ils générés par des IA? Julien Cambier a posé la question à Didier Zachary du Pôle Culture.
Bonjour Didier.
Bonjour Julien.
Alors quand l'intelligence artificielle générative est devenue accessible au grand public, il y a un vent de panique qui a circulé dans le monde culturel. Plusieurs corps de métiers se sont sentis menacés. Aujourd'hui, est-ce que ces craintes de remplacement se sont matérialisées?
Elles ne se sont pas encore matérialisées, mais les craintes sont toujours là. Clairement, il y a des métiers, notamment dans le cinéma, les métiers de doublage, se sont menacés à juste titre, à mon avis, dans le sens où une intelligence artificielle peut reprendre les voix des acteurs et les traduire dans différentes langues et tout ça en quelques secondes. Les audiolivres, par exemple, ça peut être très facilement fait par une intelligence artificielle. Et donc, pour les doubleurs, effectivement, pour les comédiens de doublage, la crainte est réelle de voir leur métier ne plus exister d'ici, on parle d'ici 5 ans même. Maintenant, la grève Hollywood a permis d'avoir un accord entre les producteurs et les comédiens qui permet à Hollywood, à l'industrie, d'utiliser toujours l'intelligence artificielle, mais les comédiens doivent donner leur consentement pour utiliser leur voix afin de nourrir l'intelligence artificielle. En gros, c'est un petit répit pour les comédiens, mais à mon avis, il y a quand même du souci à se faire.
On parlait de la grève à Hollywood, c'était une grève à la fois des acteurs, notamment sur cette question du doublage, mais aussi des scénaristes qui avaient peur de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Ils ont fini par trouver un accord. Qu'est-ce qu'il dit cet accord?
Alors, l'accord qui a été trouvé entre les scénaristes et les producteurs, c'est en gros, si Hollywood utilise l'intelligence artificielle pour écrire un scénario, les auteurs humains qui travaillent dessus par la suite doivent être prévenus de l'origine du texte, et l'apport de l'intelligence artificielle ne pourra pas justifier ni une diminution du salaire, ni un partage de crédit au générique.
Mais donc finalement, les productions de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elles peuvent être monétisées ?
L'IA n'étant pas humaine, elle ne génère pas de droits d'auteur. Donc ça signifie qu'une œuvre créée par intelligence artificielle ne peut pas être protégée par un copyright. Donc en gros, le matériel pourrait être piraté sans que le piratage puisse être attaqué en justice.
Est-ce qu'il y a un secteur artistique qui s'est plus approprié l'IA qu'un autre ?
Bah, approprié, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais la musique, ce sont des mathématiques, et à partir de là, l'intelligence artificielle a trouvé un terrain très fertile dans la musique. En somme, l'IA est déjà présente à chaque étape de la production musicale, donc la composition d'une chanson à la manière dont on l'écoute. Par exemple, les playlists personnalisées, les recommandations que font les algorithmes des plateformes de streaming, c'est de l'intelligence artificielle. L'IA cartographie nos goûts, si on aime les chansons tristes ou up-tempo, ou si on aime le rock des années 60, etc. Et à partir de là, elle nous sert de guide à travers les 70-80 millions de titres qu'il y a sur les plateformes de streaming.
Mais donc ça, c'est plutôt une aide pour faire le tri dans les catalogues musicaux une fois que la musique a été créée et publiée. J'imagine que l'IA intervient aussi dans le processus créatif de ces musiques.
L'intelligence artificielle peut cloner les voix. On l'a vu avec le vrai-faux duo entre The Weeknd et Drake, qui est sorti l'an dernier. Ça a fait un gros coup médiatique, parce qu'il n'a jamais existé. Ça ne plaît pas du tout, par contre, au major du disque comme Universal, qui a exigé le retrait immédiat de la chanson, parce que selon elle, c'était une fraude aux droits d'auteur, ce qui reste une interprétation en réalité. Mais donc les artistes sont partagés par rapport à l'utilisation de l'IA de leur voix. Certains trouvent ça scandaleux en fait, sont scandalisés par ça. D'autres, comme la chanteuse Grimes, a cloné sa voix et l'a rendue disponible en licence. Donc c'est une autre manière en fait de se faire de l'argent à l'ère de l'intelligence artificielle. À voir si ça fonctionne. Ensuite, l'intelligence artificielle compose énormément de chansons. On connaît, il y a énormément de playlists sur Spotify et toutes les plateformes de musique d'ambiance avec trois notes de piano. Et bien, énormément de ces titres sont en réalité générés par l'intelligence artificielle. En fait, on a assisté à la création de véritables usines musicales qui, grâce à l'intelligence artificielle, créent ce genre de chansons et tout ça. Et cela génère en fait des droits d'auteur. Et ça ne plaît pas du tout non plus à Universal et aux majors du disque. Qui considèrent toujours que c'est une fraude et qui poussent les plateformes à faire la chasse aux musiques générées par intelligence artificielle. En fait, la grosse question qui est au centre de la musique et de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il s'agit d'une musique générée par intelligence artificielle ou assistée par intelligence artificielle ? On a vu par exemple avec l'inédit des Beatles, Now and Then, qu'ils avaient utilisé l'IA pour nettoyer la bande et nettoyer la voix de John Lennon et pouvoir l'utiliser. L'intelligence artificielle, à ce moment-là, devient un véritable outil de production. Et à ce moment-là, c'est comme, par exemple, la naissance de l'enregistreur multipiste qui permettait de diviser les pistes audio, de scinder les pistes audio, de les réutiliser séparément pour après les réagencer ou chipoter avec. On est dans le même état d'esprit. L'intelligence artificielle peut devenir un nouvel outil de production musicale. Si tant est, dit le musicien techno Richie Hawtin, qu'elle soit bien encadrée. Et ça, c'est toute la question, c'est l'encadrement de l'intelligence artificielle.
Au cours des derniers mois, on a pu voir des articles qui annonçaient la première BD ou le premier manga créé par l'intelligence artificielle. On l'a tous entendu, Johnny Hallyday ou Emmanuel Macron qui reprenait les démons de minuit ou encore le générique des Pokémon. Mais en dehors de ces effets d'annonce et autres détournements, a-t-on vu l'émergence de vrais artistes IA, si on peut dire, qui sont reconnus ou pas d'ailleurs et qui vivent des productions de l'intelligence artificielle ?
En tout cas, c'est dans la boîte. Donc, on a vu les usines musicales qui généraient beaucoup de musique d'ambiance. Mais il y a aussi un rappeur, un faux rappeur, un rappeur virtuel, FN Mecca, qui a été le premier rappeur généré par intelligence artificielle à être signé sur une major du disque, en l'occurrence Capitol aux États-Unis. Mais au bout de 2-3 jours, son contrat a été résilié parce qu'il reproduisait en fait tous les stéréotypes liés à la race.
Merci Didier.
Ce fut un plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débats entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.
Ce podcast vous a été présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.